Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'une des grandes avancées du XXe siècle est la généralisation de la conservation des aliments par le froid artificiel. Réussir à générer et produire ce froid à grande échelle est une vraie révolution pour l'industrie agroalimentaire et la vie du consommateur. L'émergence de la chaîne du froid permet de consommer des produits frais avec des restrictions géographiques moindres, voire quasi inexistantes. Le froid conserve les vitamines, stoppe la multiplication des microbes et conserve les saveurs bien mieux que toute méthode de stérilisation par le chaud. Ce froid artificiel industriel permet aussi de constituer des stocks de produits à être écoulés pendant toute l'année, notamment avec le développement, encore balbutiant en France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'industrie des produits surgelés. Dans ce numéro d'Ainsi va le monde, de Maurice Sévenot, consacré à l'industrie du froid, on assiste au début d'un changement de paradigme pour les industriels et les consommateurs, pour le meilleur et pour le pire. On entend notamment Henri Queuille, ancien ministre de l'Agriculture, s'exprimer en sa qualité de président de l'Association française du froid sur le potentiel immense de cette industrie nouvelle. Une émission annonciatrice d'un nouveau monde, donc, enregistrée le 22 janvier 1948 et diffusée sur la chaîne nationale. Attention, l'émission a été restaurée pour cette rediffusion, l'original étant composé de bandes brutes qui par moments devenaient inaudibles et perdaient leur cohérence.
Je suis navré de vous parler aujourd'hui du froid, car c'est provoqué le sort qui jusqu'ici s'est montré si clément à notre égard. Pas un flocon de neige à Paris et peu sur les champs où généralement l'on pouvait faire chousse à l'envi en cette saison. Et je ne sais si vous avez remarqué que dès que l'on aborde un sujet où le hasard est maître, il emporte le pli et gagne la partie. Le général hiver s'est transformé cette année depuis longtemps en chevalier printemps et nous espérons tous qu'il laissera au magasin d'accessoires son givre, sa bise, sa glace, ses boules de neige, ses mitaines et ses passe-montagnes. En fait, ce sujet devrait être abordé en plein été, si toutefois celui-ci n'est pas à l'image de celui-là. Alors que nous sommes bien en sueur, que chaque mouvement est un supplice, qu'on souhaite apporter de sa main un pain de glace entier, ah, qu'il serait bon d'entendre parler du froid. Comme en parle d'ailleurs le dictionnaire Larousse. Froid, absence partielle ou totale de chaleur. Sensation que fait éprouver l'absence, la limitation ou la perte de chaleur. Si l'on continue un peu plus loin, d'ailleurs, Larousse nous parle d'impassibilité, d'indifférence, d'affaiblissement des sentiments réciproques, mais ce n'est pas ce froid dont nous devons nous entretenir. Le froid a trop d'importance dans la vie moderne, est appelé à acquérir trop d'applications multiples d'aidements pour faire un sujet de plaisanterie. L'Association française du froid a pour président M. Queuille, ancien ministre de l'Agriculture. Nous l'avons convié à notre micro. Écoutez.
Mesdames, messieurs, les nécessités du ravitaillement humain implique la mise à la disposition des consommateurs tout au long de l'année d'un volume énorme de produits alimentaires dont la qualité et la valeur nutritive doivent être aussi parfaites que possible. Or, les denrées alimentaires sont pour la plupart sujettes à des altérations qui se traduisent par la putréfaction pour les produits d'origine animale et la pourriture pour les produits d'origine végétale. La conservation apparaît donc indispensable, non seulement au stade de la production, mais en cours de transport et sur les lieux de la consommation. D'une part, afin de constituer les stocks suffisants pour satisfaire aux besoins de l'alimentation humaine pendant les périodes de non-production, et d'autre part, pour limiter au maximum les pertes inadmissibles en période de disette nationale. La connaissance et la composition des aliments et des facteurs capables de la modifier est un guide sûr pour l'emploi des moyens à appliquer en vue de la conservation à plus ou moins longue échéance des divers produits alimentaires. La science met à notre disposition deux catégories de moyens de conservation. Les moyens chimiques, les antiseptiques variés, et les moyens physiques, la chaleur et le froid. D'ores et déjà, les moyens chimiques n'ont pas la supériorité sur les moyens physiques, car ils risquent d'être nocifs lorsqu'ils interviennent à doses répétées pendant longtemps. On ne peut logiquement en conseiller l'usage systématique. Parmi les moyens physiques, la chaleur détruit les microbes et affecte les vitamines toujours présentes dans les aliments, tandis que le froid stoppe la multiplication des microbes, inhibe l'activité du diastase et conserve intact les propriétés des vitamines. Lorsqu'on a le choix entre la stérilisation par la chaleur et l'emploi du froid artificiel, les hygiénistes et les diététistes s'accordent pour déclarer que l'usage du froid est préférable à celui de la chaleur. Grâce à ses propriétés artificielles, le froid permet de constituer des stocks pendant les courtes périodes de pointe de production, de décongestionner les marchés, de stabiliser les cours et d'étaler la consommation de produits saisonniers et périssables d'un bout de l'année à l'autre en évitant les spéculations. Aussi, pour promouvoir et vulgariser en France les applications du froid industriel, M. André Lebon, ancien ministre, économiste distingué, créa en 1910 l'Association française du froid, dont le siège social est actuellement 129 boulevard Saint-Germain à Paris. Cette association, que j'ai l'honneur de présider actuellement, créa dès sa fondation des enseignements pour la formation des ingénieurs et des techniciens nécessaires pour les applications du froid industriel. Elle organise actuellement, sous le patronage du ministre de l'Agriculture, avec la collaboration de l'inspection des activités frigorifiques, de la Direction générale du génie rural et des principaux syndicats professionnels de la partie intéressée, des conférences spécialisées sur l'emploi du froid dans les professions. Les 7 premières sont relatives au lait. Elles seront ouvertes au public au Conservatoire national des arts et métiers, 292 rue Saint-Martin à Paris, les 7, 14, 21, 28 janvier et 4, 11, 18 février 1948 à 15h30.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre vice-président, excellent homme au demeurant, eut un mot charmant lors de notre première entrevue. J'étais venu lui rendre visite à son bureau du boulevard Saint-Germain afin de jeter les grandes lignes de notre petite enquête. Il m'introduisit dans un bureau et, alors qu'à la porte, je lisais « Association française du froid », effectivement, il ne faisait pas chaud. Puis Goguenard, « Eh bien écoutez, mon cher ami, réflexion faite, passons donc au secrétariat, la pièce est chauffée. » Et nous passâmes dans une petite antichambre à la chaleur ambiante. C'est là d'ailleurs que nous prîmes rendez-vous avec le directeur d'une des plus grandes fabriques de glace de Paris. Quelques jours plus tard, j'arrive à cette usine, moteur, toboggan, d'où dévalent des blocs de glace, forte odeur d'ammoniac.
Eh bien, monsieur Chevenot, la glace est fabriquée dans les usines comme elle est faite dans la nature. C'est-à-dire par la congélation de l'eau placée dans une ambiance au-dessus de 0 degré centigrade. Dans la nature, l'agent réfrigérant est l'air. À l'usine, c'est un bain incongélable qui transmet le froid nécessaire à l'eau. L'installation comporte un ou plusieurs générateurs appelés bacs à glace, formant un réservoir du liquide incongélable, qui est généralement une saumure de CA-C12. Dans cette saumure plongent des batteries, des réservoirs appelés moulots, qui ont été remplis d'eau au préalable. La saumure est maintenue à
moins 5 degrés centigrades par un faisceau de serpentin où circulent et s'évaporent de l'ammoniaque liquide qui refroidit le contenu dans les moulins. Et la glace s'y forme peu à peu. C'était 20 à 24 heures pour la fabrication d'un pain de glace de 27 kg, 28 à 36 heures pour un pain de 40 kg. Les diverses manœuvres se font avec un pont roulant que vous entendez en ce moment et qui fait tant de bruit, vous voyez, monsieur Sévenot. Quand une batterie est congelée, elle est retirée du bac et le bâtonnet est porté dans un bac rempli d'eau tiède, où les bains se décollent et remontent un peu.
En sortant de cette usine, je voudrais vous donner, vous énumérer, les nombreuses applications de la glace. Les glacières domestiques, si utiles aux particuliers tout d'abord, puis les meubles commerciaux et les chambres froides à glace, qui trouvent leur place et leur emploi dans toute l'alimentation. Restaurants, cafés, boucheries, charcuteries, triperies, poissonneries, pâtisseries, laiteries et j'en passe. Et les transports frigorifiques pour le lait, les viandes, les poissons, les légumes et les fruits. Le rafraîchissement des wagons de voyageurs pendant l'été, la conservation de la cargaison de poissons pendant la pêche en mer, le refroidissement de bains et de préparations dans l'industrie chimique, son emploi comme sédatif et curatif par la médecine, enfin en pharmacie pour la conservation de certains médicaments, et en particulier la pénicilline. Dans un autre domaine de l'activité du froid, des réalisations très importantes, très intéressantes existent. Vous connaissez tous ces fruits surcongelés que vous pouvez déguster à longueur d'année et que vous achetez durs comme des morceaux de glace. À peine cueillis, les fruits sont placés grâce au froid artificiel dans une atmosphère de moins 18 degrés, puis conservés à moins 12 degrés jusqu'à consommation. On pratique ainsi pour de nombreuses denrées alimentaires, périssables, avec des différences de température uniquement. Viande, poisson, légumes, etc. Ce procédé a l'avantage de conserver toutes les vitamines intactes à l'inverse de la stérilisation par la chaleur qui détruit une partie des propriétés nutritives des aliments.
Je vais maintenant demander à M. Lablanchy, qui est lui-même un spécialiste des questions de froid, de brosser pour nos auditeurs un rapide tableau des diverses applications du froid artificiel et notamment dans les pays étrangers. M. Lablanchy, nous vous écoutons.
Comme l'a souligné M. le Président Cueil au début de cette émission, le froid artificiel est un remarquable agent de stabilisation des denrées alimentaires périssables et il contribue à la réalisation de l'harmonie nécessaire entre la discontinuité de la production et la permanence de la consommation. Mais là ne se bornent pas les services qu'il est appelé chaque jour à rendre aux hommes. Ces applications sont multiples dans les domaines d'activité les plus variés.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous donner quelques exemples ?
Eh bien, le froid artificiel est utilisé couramment dans les industries alimentaires, laiterie, confiserie, chocolaterie, boulangerie, cave de vinification. Il est utilisé dans l'industrie chimique, notamment pour la fabrication de la cellophane, du celluloïde, des explosifs, des parfums, des films, des matières plastiques, du caoutchouc synthétique. Il est utilisé en médecine pour la conservation, à longue échéance, des sérums et du sang pour les transfusions sanguines, au cours de la fabrication de la pénicilline. Il est également utilisé pour le forage du puits de mine. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu creuser sous la Seine la station du métro Saint-Michel par congélation du sous-sol. On pourrait ainsi multiplier de tels exemples d'application du froid presque à l'infini.
Je crois que le froid artificiel, tout au moins il ressort des conversations que nous avons eues jusqu'ici, et que le froid artificiel est une invention spécifiquement française. Mais est-il plus utilisé à l'étranger qu'en France ?
Hélas oui, et au cours d'un récent voyage d'études de 6 mois que j'ai effectué aux États-Unis, j'ai pu constater la prodigieuse évolution, j'allais dire révolution, intervenue dans les habitudes humaines grâce aux diverses utilisations du froid artificiel.
Voudriez-vous, pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'aller aux États-Unis, et ils sont nombreux, voudriez-vous illustrer de quelques exemples précis ce que vous avez pu remarquer ?
Le premier point qui frappe l'Européen arrivant aux États-Unis réside dans la quantité impressionnante de crème glacée ou ice cream consommée par les Américains. Été comme hiver.
C'est amusant, ça.
Dans ce pays, en effet, la crème glacée n'est pas considérée comme une friandise, mais comme un aliment d'une grande valeur nutritive et, croyez-moi, excellent.
J'en suis certain, d'autant plus qu'il doit être fait, cet ice cream doit être fait avec du lait entier, certainement.
Oui, en moyenne, l'ice cream contient 12% de matière grasse, 14% de sucre et 12% d'extrait sec dégraissé du lait, ce qui représente une quantité impressionnante de produits nutritifs.
Certainement.
Le deuxième point qui m'a surpris tient au développement intensif de la congélation ultra rapide.
Et quels sont les aliments congelés ultra rapidement ?
Les viandes, les fruits et les jus de fruits, les légumes, les œufs et les volailles, les poissons et les coquillages, les produits laitiers, et enfin, les derniers en date, les aliments pré-cuisinés.
Les aliments pré-cuisinés ? Et voyons, est-ce que vous voulez me dire que ces aliments ont été préalablement préparés, assaisonnés, cuits, et puis ensuite congelés, vraiment ?
Exactement. Et j'ai pu déguster, par exemple, du ragoût de bœuf accompagné de petits pois et de carottes, de magnifiques pâtes aux pommes et aux cerises qui avaient été cuites 8 mois plus tôt, puis congelées à moins 25 degrés et conservées à moins 18. Et je puis vous assurer que ces mets étaient excellents. Un profane aurait juré que ces tartes venaient tout juste d'être perfectionnées et de sortir du four.
Je pense qu'en venant d'Amérique, vous avez rapporté ça pour votre famille, une petite tarte cuisinée 8 mois auparavant.
Non,
c'était tout de même un peu amusant. Je suis sûr que nos éditeurs apprécieront d'ailleurs la méthode qui consiste à préparer en série les desserts qui seront consommés quelques mois plus tard. Mais et parmi les autres applications du froid artificiel, avez-vous remarqué enfin quelques faits intéressants?
Oui, j'ai également été surpris par les applications du conditionnement d'air dans les appartements, au moyen de conditionneurs à peine plus longs qu'un poste de test. Dans les bureaux, les ateliers, les magasins, les restaurants, les salles de spectacle, les trains et les autocars. J'ai eu l'occasion de visiter, sous la conduite d'un ingénieur américain, l'installation de conditionnement d'air du plus grand hôtel de Washington, et j'ai été littéralement ébahi de trouver dans les sous-sols de cet hôtel une gigantesque salle des machines avec plusieurs batteries d'énormes compresseurs centrifuges au freon 12 capables de produire le froid indispensable au conditionnement des quelques mille chambres de l'hôtel. Les studios de cinéma sont également de grands consommateurs de froid, surtout pour les prises de vue en technicolor et pour la production de neige artificielle. Autrefois, on utilisait à cet effet des flocons de maïs ou de l'acide boy. Maintenant, on fabrique de la neige.
Nous venons d'étudier de nombreuses applications du froid. Il en existe encore d'autres, et parmi celles-ci, une très importante, celle qui a trait à la thérapeutique. Je vais demander à M. René Daval, qui est secrétaire général de l'Institut français du froid industriel au Conservatoire national des arts et métiers, et professeur du cours d'application du froid à cet institut, de bien vouloir nous parler de cette question. On a montré jusqu'ici le rôle bienfaisant du froid dans la conservation des denrées périssables. Et avant que M. Daval ne nous parle de la thérapeutique, je voudrais qu'il nous dise quels sont les effets du froid sur l'organisme.
Eh bien, si on me demandait à brûle-pourpoint quel est le meilleur ami de l'homme et quel est son pire ennemi, je répondrais comme Ésope que c'est le froid. Tout le monde sait qu'une application maladroite du froid peut causer des accidents très graves. Mais je dis d'ailleurs tout de suite que ces accidents sont surtout d'ordre mécanique. Si au contraire on applique le froid d'une façon rationnelle, comme par exemple en prenant des douches froides dans des conditions bien spécifiées,
n'est-ce
pas, eh bien on obtient un effet de choc sur l'organisme qui améliore le rendement du système nerveux.
C'est la douche écossaise, n'est-ce pas, en quelque sorte.
En quelque sorte, oui.
Dans les méfaits du froid, parmi les méfaits du froid, il y en a deux qui frappent le plus spécialement, c'est la congestion, n'est-ce pas, d'une part.
La congestion, oui.
Et puis d'autre part, n'est-ce pas, cet effet qui consiste à poser sa main sur un objet métallique par un très grand froid et que la peau de la main reste collée
oui,
dessus.
Oui, pour ce dernier danger est assez rare dans nos régions,
oui.
Puisqu'il ne peut se produire que pour des froids très intenses qui amènent la congélation des éléments superficiels de la peau. Et qu'est-ce qui détermine le phénomène de collage que vous avez, dont vous venez de parler. Mais ce sont des phénomènes accidentels, n'est-ce
c'est
pas, qu'on ne peut pas considérer que dans la pratique courante.
Bon, eh bien, Monsieur Daval, je vais vous demander maintenant alors quelques précisions au sujet de l'application du froid à la thérapeutique. D'abord, est-elle de création récente?
Non. Les Chinois ont, paraît-il, utilisé il y a des siècles, dans des conditions d'ailleurs assez mal connues, la réfrigération à des fins médicales. Actuellement, tout le monde connaît l'emploi de la glace en application sur le ventre, le cœur ou la tête. D'autre part, sous le nom de cryothérapie, on a ces dernières années traité avec succès des affections superficielles par congélation des tissus malades.
Mais en quoi consistent donc alors les innovations en toute matière, en cette matière?
Eh bien, jusqu'ici, le froid, comme je viens de vous le dire, était surtout utilisé comme sédatif. Son temps d'application était sans discontinuité. L'innovation consiste à faire alterner les périodes de refroidissement et de réchauffement suivant une technique dite frigothérapie, variable avec le cas à traiter.
Et quels sont donc les cas qui sont tributaires de ce mode de traitement?
Ils sont nombreux, dans des affections intestinales, en gynécologie, dans des infections des voies respiratoires. On a utilisé avec succès la frigothérapie. Mais le cancer même doit pouvoir être, et j'ai là-dessus l'avis de personnalités médicales qui m'ont entretenu dans cette voie, peut-être sinon guéri, du moins stabilisé dans l'état où il est parvenu quand on le décèle et qu'on commence le traitement.
Vous affirmez là quelque chose qui est certainement très intéressant. Est-ce que vous pouvez me citer des observations confirmant ces résultats?
En ce qui concerne les affections microbiennes, j'ai été moi-même témoin de guérison certaine et reconnue par le médecin avec lequel j'étais en relation à ce moment-là. Pour le cancer, seuls les Américains ont entrepris des essais. Les docteurs Fay et Smith en particulier, en amenant par enveloppement de glace la température intérieure du corps d'un cancéreux à plus 29 degrés, ce qui s'obtient en 4 heures, et en la maintenant à cette valeur pendant 3 semaines, ont obtenu l'arrêt du développement du cancer.
D'autres applications du froid à la thérapeutique ont-elles été tentées aux États-Unis?
Oui, oui, et particulièrement dans la chirurgie des membres. De nombreuses amputations pendant la guerre ont été effectuées sur des bras ou des jambes préalablement maintenus 7 à 8 jours dans une gouttière qui contenait de la glace concassée. À ce moment, le membre est complètement indolore et l'opération qui ne nécessite aucune anesthésie n'est suivi d'aucun accident post-opératoire et il n'y a jamais de phénomène de choc au moment pendant l'opération et la convalescence est très rapide.
Et ce que vous venez de me dire là, très très intéressant, le froid serait-il donc la panacée tant recherchée?
L'avenir nous le dira si on veut bien se donner la peine d'étudier plus avant la question. Mais d'ores et déjà, on peut dire que le froid peut être pour le médecin un précieux auxiliaire car, indépendamment de son rôle direct, il peut renforcer son médication et, avec les dernières conquêtes de la thérapeutique, il doit contribuer à guérir les maladies humaines et devenir indispensable dans ce domaine de la médecine qui est si utile à l'humanité.
Je vous remercie.
Notre tâche ne serait pas terminée si nous n'avions pas rétrospectivement des frissons provoqués non par l'angoisse mais par le froid, ou plus exactement par les froids historiques. J'ai demandé à Francis Covert, docteur S. Passé, de nous parler des grands froids de jadis.
Mon cher Chevenot, je suppose que ce que vous me demandez relève de la petite histoire. Vous aimeriez à connaître les froids que l'on peut appeler historiques. C'est très volontiers que je me propose sur le champ de vous satisfaire, car les vieux auteurs dont j'ai fait mes amis de chaque jour nous ont laissé suffisamment de descriptions pittoresques, peut-être plus pittoresques d'ailleurs qu'exactes, pour que nous soyons, vous et moi, satisfaits. Or, c'est la guerre de 100 ans qui valut à la France la série la plus typique, la plus exceptionnelle de froid qu'elle ait jamais connue. Les dates, 1421, 23, 32, 33, 38, 39, 43. La Seine gela en ces hivers à 2 pieds d'épaisseur, et les loups même entrèrent par le fleuve au cœur de la cité. En décembre 1439, notamment, ils dévorèrent 14 personnes, tant grandes que petites, entre Montmartre et la porte Saint-Antoine. Bien sûr, le plus féroce de ces carnassiers fut pris en chasse et appréhendé. Les Parisiens l'avaient surnommé Courteau. On le promena mort dans une brouette à travers les rues et le bon peuple délaissa ses occupations pour l'aller voir passer. Le vinaigre, nous dit un chroniqueur, et le verjus avait gelé dans les celliers et les coqs et galines avaient les crêtes gelées jusqu'à la tête. Pauvre bête. Les citadins ne faisaient plus que crosser ou jouer à la pelote pour se réchauffer. Mais de tous les hivers, c'est celui de 1709 qui a laissé les souvenirs les plus piquants. Piquants de froid, naturellement. Les familles, lisons-nous sous la plume d'un contemporain, restaient toute la journée au lit. Un seul se levait, pour tous, pour apprêter le repas et porter à manger aux autres. Le vin pur gelait dans les barriques, l'eau de vie aussi et l'huile de noix. Ce qui est, vous le voyez, extraordinaire sans doute, mais pas tellement, puisque les combattants de la Grande Guerre vous diront la même chose en se rappelant un certain hiver 1917 qui les vit casser avec un marteau leur ration de vin, ce vieux pinard qui fait les victoires. Enfin, pour revenir à 1709, acceptons la relation du brave homme qui pleure sur la froidure du jour et dit encore... Les almanachs et les gazettes ne parlaient que d'hommes et d'animaux de toutes espèces, trouvés morts dans les chemins ou ensevelis sous la neige. Les corbeaux mangeaient les pigeons, qui eux-mêmes mouraient de faim. Et les philosophes avaient eux aussi, bien sûr, leur point de vue. Ils disaient que le froid fut au 7e degré et que s'il était arrivé jusqu'au 8e, la plus grande partie des hommes aurait péri. Ce qui ne manque pas, vous le voyez, d'exagération, car nous savons par expérience intimement que des milliers de Français en Allemagne pendant les années noires connurent jusqu'au 30e degré en dessous et même davantage et recouvrèrent un jour tout de même le sens de la vie après avoir cru presque en la pétrification. Comme quoi, l'histoire, ou plutôt les historiens, sont bons à considérer avec quelque méfiance. Car plus on s'enfonce dans le passé, domaine alors de plus en plus incontrôlable, plus les exagérations semblent permises. Bornons-nous donc à admettre le froid comme un besoin, et oui, un besoin physiologique, car le froid, nous le savons, est utile pour assainir la terre, détruire les parasites, les maladies des plantes, et reposer nos champs, et nous faire paraître plus doux, sans doute, le retour du soleil. Et puis quoi, après tout, l'hiver, c'est l'hiver. Hélas, pauvres hommes, que nous sommes donc toujours insatisfaits, et cela me rappelle, pour conclure avec un brin de philosophie, quelques vers de Mirliton susurrés il y a naturellement quelques 50 ans, et qui bêtement donnait le point de vue du bon sens. Quand il fait froid, on se plaint, on soupire. Quand il fait chaud, alors c'est encore pire, on se récrie, on pousse des holas. Que voilà bien l'image de la vie. Fait en deux mots, deux seuls, regret, envie, rêver ce qu'on n'a pas, dédaigner ce qu'on a.
Ainsi va le monde.
L'émission documentaire du journal Parlé, réalisée sous la direction de Samy Simon, assistée de Henri Sadorge.
Aujourd'hui, l'industrie du froid, un documentaire par Maurice Sévenot.
C'était un numéro de Ainsi va le monde de Maurice Sévenot, enregistré le 22 janvier 1948 et diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale.